Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les inondations meurtrières à Majorque dans les Baléares ont fait au moins 12 morts. Les pluies diluviennes ont pris tout le monde de court par leur intensité. La Russie ouvre une enquête pénale après l'échec du lancement d'une fusée Soyouz. Les deux spationautes ont pu s'éjecter avec leur capsule et atterrir indemnes dans les steppes du Kazakhstan. Notre pays, c'est la langue française. Emmanuel Macron lyrique au sommet de la francophonie à Yerevan. Le chef de l'État rend aujourd'hui hommage à Charles Aznavour. L'alcool doit-il être davantage taxé? Dans une lettre à la ministre de la Santé, des médecins réclament une taxe sur les boissons alcoolisées en fonction du gramme d'alcool dans le budget de la Sécurité sociale pour financer les soins. L'alcool, rappelle-t-il, cause directement 49 000 morts chaque année. 3 jours de deuil ont été décrétés par le gouvernement régional des Baléares. Les pluies diluviennes qui ont frappé Majorque mardi ont entraîné des inondations meurtrières. Les eaux ont dévasté des villages et le bilan des victimes s'est alourdi. On dénombre désormais 12 morts. Marie-Hélène Ballestero, vous suivez la situation depuis Madrid.
Oui, c'est bien ça, et c'est la pire catastrophe de l'histoire récente de Majorque, Aurélie. Aujourd'hui, le journal Diario de Majorque poursuit en lisant une vague de dévastation qui ressemblait à un tsunami et qui a rasé plusieurs communes de l'île, San Llorenç, Son Carrió et Sillot. Près de 48 heures après ces pluies torrentielles, eh bien, les secouristes sont toujours à l'œuvre. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu. Sa mère fait partie des 12 victimes. Ils étaient à bord d'une voiture lorsque les inondations les ont surpris. La mère a réussi à sauver in extremis sa fille de 10 ans grâce à l'aide d'un voisin avant d'être elle-même emportée par les eaux. Parmi les victimes, il y a aussi 2 Britanniques, 2 Allemands et une Néerlandaise. À Majorque, 2 jours après cette tragédie, l'heure est aussi au bilan. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez s'est rendu hier sur place pour évaluer les dégâts. Il a annoncé que les communes touchées seront reconnues en état de catastrophe naturelle. De son côté, le gouvernement des îles Baléares a décrété 3 jours de deuil. Cet exécutif régional a été aujourd'hui la cible de nombreuses critiques de la part des pompiers de Palma de Majorque qui dénoncent le manque d'effectifs dans un premier temps et de coordination. Eux-mêmes ont proposé leur aide et elle a été refusée. Alors par ailleurs, des voix se sont élevées également ces dernières heures pour dénoncer des problèmes d'urbanisme dans ces communes car des logements ont été construits à côté et même sur le lit de la rivière. Or, comme le souligne le quotidien El País, cette région de San Llorenç et Sillot, à l'est de Majorque, est classée comme zone à risque d'inondation. Elle peut donc être inondée au moins une fois tous les 100 ans.
Merci Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid, malgré la difficulté de la liaison. Toitures envolées, lignes électriques au sol et arbres arrachés, les images de la Floride après le passage de l'ouragan Michael sont spectaculaires. Des centaines de milliers de personnes restent privées de courant. Le reportage de Grégory Phillips.
Au lever du jour, ils ont encore l'air éberlués, comme sonnés par la violence de ces vents à 250 km/h. Chris a passé la nuit dans sa voiture sur un parking.
Ma maison a été complètement détruite, donc j'attends pour savoir où est-ce que je vais dormir maintenant. C'était une bombe.
Peggy, elle, vivait avec son mari et leur fils de 12 ans dans un mobile home. La caravane s'est envolée.
C'était vraiment effrayant. Les bruits étaient incroyables. Je n'arrêtais pas de prier. La prochaine fois, je partirai, c'est sûr.
Plus on s'approche du front de mer et plus les dégâts sont impressionnants. À gauche de la route, un train de marchandises complètement renversé. Partout, des poteaux électriques à terre, des voitures explosées et projetées à plusieurs mètres. Et puis, il y a cette tour d'habitation dont certains étages ont été détruits.
Et là, quand on arrive au 8e étage, on découvre des appartements totalement dévastés. En fait, les murs se sont envolés.
Au loin, on aperçoit un hélicoptère de la FIMA, les services d'urgence. Mais pour l'instant, la population de Panama City semble livrée à elle-même. Après le choc, vient l'heure du nettoyage. On sort des pelles, des balais. Downtown, au milieu de la rue principale, un homme seul ramasse des bouts de toit envolés et les écarte de la route afin que les voitures puissent passer.
Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture en Floride. Plus de pleurs que de mal pour les 2 spationautes qui comptaient rejoindre la Station Spatiale Internationale à bord d'une fusée Soyouz aujourd'hui. Le russe Alexei Ovchinin et l'américain Nick Hague ont atterri en catastrophe au Kazakhstan après la défaillance au décollage d'un moteur de la fusée. On retrouve Claude Bruyot à Moscou. Bonsoir Claude.
Bonsoir Aurélie.
La Russie a décidé d'ouvrir une enquête pénale pour connaître les raisons de l'échec de ce lancement.
Oui, absolument. Alors, en réalité, il y aura deux enquêtes. Une première interne à Roscosmos, l'agence spatiale russe. Ça, on va dire que c'est la procédure normale. Puis une seconde qui sera menée par le comité d'enquête fédéral, une véritable institution dans la Russie de Vladimir Poutine, mais qui a plutôt pour habitude de traiter des grandes affaires criminelles. Alors de là à dire que l'on s'interroge sur une éventuelle négligence qu'une enquête interne pourrait par exemple minimiser, il n'y a qu'un pas. Lors d'un précédent échec, cette fois d'une fusée Proton, des responsables de haut niveau de l'agence spatiale russe Roscosmos, donc, avaient été carrément limogés. Mais sorti du cadre russe maintenant, cet échec est aussi un problème pour les Occidentaux. À ce jour, seuls les lanceurs Soyouz sont capables de monter jusqu'à la station spatiale internationale, l'ISS. Et le temps que toute la lumière soit faite sur les raisons précises de la panne, donc du deuxième moteur de la fusée russe aujourd'hui, il peut s'écouler de longues semaines. Or, l'équipe de trois cosmonautes resté dans l'ISS attendait des vivres pour aujourd'hui et ensuite une relève pour décembre. Il est probable donc que leur mission devra être prolongée. Et même si les Occidentaux, NASA et agences spatiales européennes en tête se disent aujourd'hui solidaires de leurs partenaires russes, c'est un recul pour Roscosmos qui peut se satisfaire heureusement d'avoir vu son système de secours fonctionner parfaitement à 7 500 km/h.
Bruyot, en direct de Moscou, les fusées Soyouz sont clouées au sol jusqu'à la conclusion des enquêtes diligentées par l'agence spatiale russe. Pendant ce temps, aucun spationaute ne peut rejoindre l'ISS. Succès, en revanche, pour la compagnie Singapore Airlines. Elle vient de mettre en service le vol le plus long au monde. L'avion, un Airbus 350-900 ULR, ralliera sans escale New York depuis Singapour, soit 15 350 km en un peu moins de 19 heures. C'est un vol d'1h35 de plus que le record actuel détenu par un Boeing 777 affrété de Doha à Auckland par Qatar Airways. Le ministre allemand est en visite officielle en Grèce. Frank-Walter Steinmeier et le premier ministre grec Alexis Tsipras disent leur volonté d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations gréco-allemandes pour tourner la page des tensions liées au sauvetage financier de la Grèce, en échange de laquelle l'Allemagne exigeait une austérité rigoureuse, attitude qui avait été perçue comme une politique coloniale par les Grecs. Aujourd'hui, Alexis Tsipras veut aussi clore un ancien contentieux, laissé en suspens, celui des réparations allemandes réclamée par la Grèce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La correspondance d'Angélique Coronis à Athènes.
La somme est coquette, 280 milliards d'euros dont plus de 10 au titre du remboursement d'un emprunt imposé par Berlin pour dépenses d'occupation. Une occupation au souvenir très vif dans les mémoires. 19% de la population de l'époque avait péri, dont la quasi-totalité de la communauté juive. Un pays qui a compté une soixantaine de villages brûlés, massacrés et 350 000 morts de la famine, l'occupant allemand ayant détourné toute la nourriture pour son armée. À la fin de la guerre, la priorité était de reconstruire l'Allemagne aussi après deux versements. Sa dette envers la Grèce fut annulée en 1953 par les Alliés, sauf qu'Athènes avait alors précisé qu'elle reportait simplement l'ardoise à la fin de l'état de guerre intervenu en 1989. Depuis, Berlin oppose une fin de non-recevoir à chaque demande grecque car, je cite, il est absurde de demander le remboursement de la dette 70 ans après la fin de la guerre. Mais aujourd'hui, la Grèce est sortie de la crise, c'est le bon élève de l'Europe et Alexis Tsipras se sent assez fort pour rouvrir le dossier, non pas pour que Berlin fasse un chèque, mais pour que l'on reconsidère la question de la dette grecque toujours pas résolue. L'idée étant de dire que si 280 milliards d'euros sont absurdes à rembourser pour l'Allemagne, dont le PIB est de 3000 milliards d'euros, il l'est tout autant pour une dette de 320 milliards d'euros pour la Grèce, dont le PIB est de 192 milliards d'euros.
Le président allemand et le chef du gouvernement grec ont évoqué aujourd'hui l'avenir de l'Europe. Tous deux se disent préoccupés par la montée des voix extrêmes et populistes. Et justement, un concours pour enfants fait scandale en Slovénie. Il a été lancé par l'hebdomadaire du parti conservateur SDS. Il s'adresse aux moins de 10 ans. Il invite les enfants à écrire des contes sur les dangers liés au multiculturalisme et à l'immigration illégale. Le cahier des charges est strict. Les contes devront, je cite, « renforcer la conscience nationale, encourager le patriotisme, montrer qu'il est bon de vivre dans une famille traditionnelle, père, mère, enfant, entouré de ses compatriotes et de ses animaux domestiques. Mais cet équilibre est menacé par des héros négatifs, à savoir des migrants. Mais à la fin, précise le règlement, le patriotisme et la famille gagnent toujours. L'association des écrivains slovènes dénonce une propagande raciste et souligne que les enfants méritent des contes humains, ouverts et tolérants qui favorisent l'empathie et non la haine. L'Arabie Saoudite a finalement retiré sa candidature d'adhésion à la francophonie. Le pays avait fait l'objet de vives critiques, accusé notamment de violation des droits de l'homme et embarrassé par l'affaire de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Par ailleurs, l'Irlande, Malte, la Gambie et la Louisiane ont été acceptés en tant qu'observateurs, donc sans droit de vote, de l'Organisation internationale de la francophonie. Le sommet de la francophonie se poursuit à Erevan, en Arménie. L'occasion pour Emmanuel Macron de défendre le français comme langue de la création face à l'anglais qu'il qualifie de langue d'usage. Le chef de l'État s'est aussi rendu au mémorial du génocide arménien. Et cet après-midi, Julie-Marie Lecomte, il a inauguré la maison de Charles Aznavour.
Troisième temps fort de la visite d'Emmanuel Macron à Erevan, la maison Charles Aznavour, sur les hauteurs de la capitale. La maison Charles Aznavour, c'est un centre culturel dont le chanteur voulait faire un centre de rayonnement de la langue française, jusqu'à l'arrivée du président français. Des haut-parleurs diffusés à très haut niveau sonore les grandes chansons de l'artiste inondant tout le quartier. Rendre hommage à Charles Aznavour qui aurait dû l'accompagner ici, c'est aussi l'un des buts de ce voyage. Emmanuel Macron n'a pas attendu le grand concert qui sera donné ce soir en plein cœur de la capitale arménienne. Il a salué sa mémoire et son héritage dès le début du discours qu'il a prononcé en ouverture du 17e sommet de la francophonie ce matin.
Et Charles Aznavour a en quelque sorte une vie qui dit tout de cette aventure collective qui est la nôtre. Cet enfant d'immigré était sans héritage, sans relation, avait fait peu d'études. Sa première langue était l'arménien, sa deuxième le géorgien. Et il n'y a pas un Français qui ne le cite pas comme l'un des plus grands poètes contemporains. C'est ça la francophonie. C'est ça le français. Ça ne se donne pas en héritage et pour toujours. Ça s'apprend, ça se traduit. Mais d'abord et avant toute chose, ça se conquiert par envie. Camus disait « Mon pays, c'est la langue française. Notre pays ». C'est la langue française.
Le sommet de la francophonie, c'était avant la mort de Charles Aznavour, le cœur de ce déplacement, un rendez-vous qui se tient tous les deux ans. Emmanuel Macron a appelé les 84 États membres de l'Organisation internationale, l'OIF, à réinventer cet espace souvent trop institutionnel. Il a d'ailleurs fait campagne pour qu'une Rwandaise en prenne les rênes. Emmanuel Macron a aussi lancé le projet d'un grand congrès des écrivains francophones, comme il en existe un pour les écrivains en langue espagnole. Juste avant, il était allé se recueillir au mémorial du génocide arménien, un programme, vous le voyez, qui échappe à cette tyrannie de l'immédiateté qu'Emmanuel Macron dit tant détester.
Julie-Marie Lecomte, envoyée spéciale de France Culture en Arménie à l'occasion du 17e sommet de la francophonie. Des médecins en colère s'adressent à la ministre de la Santé. Dans une lettre ouverte à Agnès Buzyn, ils s'inquiètent de sa timidité dans la lutte contre l'alcoolisme. Ils exigent une taxation plus élevée de l'alcool qui, comme ils le rappellent, tue directement chaque année en France 49 000 personnes. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Aurélie.
On connaît bien la toxicité de l'alcool et pourtant les mesures se font attendre en France. Faut-il y voir la mainmise d'un puissant lobby viticole?
Eh bien, on peut le penser, surtout après avoir entendu cette confidence d'Emmanuel Macron.
Le vin fait partie de cette art de la table à la française, de nos pratiques, de ce qui égaye aussi un repas. Ça participe pour moi vraiment de notre culture, de notre civilisation, de notre façon d'être ensemble. J'aime beaucoup le rouge de Bordeaux, au moins le midi et un le soir. Parce que je reste sur cette philosophie que c'est un antioxydant.
Le vin fait partie de la culture française, il égaye les repas, au moins deux verres par jour, c'est un antioxydant, des paroles que l'on croirait tout droit sorties de la bouche d'un lobbyiste viticole, mais c'est Emmanuel Macron qui les a prononcées devant un journaliste de Sud-Ouest, il y a deux ans alors qu'il était candidat pour se mettre dans la poche les viticulteurs. Et en la matière, le chef de l'État est un récidiviste. Bernard Basset est le vice-président de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie.
Au début de l'année, la ministre de la Santé a fait des déclarations qui nous ont semblé très claires. Elle dit le vin, c'est un alcool comme les autres, il a les mêmes risques et provoque les mêmes dommages. Et tout de suite après, le président a dit « Moi, je bois du vin matin et soir et on ne va pas emmerder les Français avec ça ». Donc il a quand même recadré, on pourrait dire, sa ministre de la Santé. Donc depuis lors, c'est vrai qu'il ne se passe rien sur le front d'alcool. Il y a un plan de lutte générale contre les addictions qui devrait paraître à la fin du mois, qui a déjà été retardé plusieurs fois. Mais il n'y aura très probablement pas grand-chose dedans en ce qui concerne le risque alcool.
Et c'est peut-être une femme qui a fait d'Emmanuel Macron un fervent défenseur du vin, Audrey Bourolo, et sa conseillère agriculture à l'Élysée. Elle était auparavant déléguée générale de Vin et Société, un organisme chargé de défendre les intérêts de la filière viticole.
Antoine Marette. Consultation en cours au PS dans le cadre du chantier La gauche et l'avenir de l'Europe, ouvert en juin dernier. Les militants du Parti socialiste sont invités à choisir choisir entre deux textes définissant la stratégie du PS pour les élections européennes. Un vote qui doit permettre de clarifier la ligne du parti, Sophie Delpont.
Les militants socialistes vont trancher ce soir et pourraient avaliser la rupture entre le PS et son aile gauche. Une longue séquence qui s'est prolongée ces dernières semaines. Une séparation souvent annoncée mais jamais concrétisée. Alors que l'eurodéputé Emmanuel Morel n'en finit pas d'être sur le point de rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Les adhérents socialistes sont invités à choisir entre deux textes. D'un côté, le projet porté par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et les deux anciens candidats à la tête du parti, Luc Carvounas et Stéphane Le Foll, et de l'autre, le texte d'Emmanuel Morel, eurodéputé proche de la France insoumise. Peu de différence sur le fond, car la direction du parti avait déjà infléchi sa ligne en direction de la gauche pour éviter la scission. Malgré des proximités, notamment sur le rejet d'une Europe de l'austérité, Emmanuel Morel réaffirme tout de même ses différences, sa volonté de quitter l'OTAN et de quitter le PSE, le Parti Socialiste Européen. Rappelons qu'Emmanuel Morel avait réuni près de 19% des voix lors de l'élection du premier secrétaire du PS en mars dernier. Avec la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann, l'eurodéputé pourrait rejoindre la liste France Insoumise pour le scrutin de mai prochain, saisissant la main tendue de Jean-Luc Mélenchon qui lui promet une place éligible, achevant ainsi de siphonner son ancien parti.
Le PS cherche toujours une tête de liste. L'eurodéputé Éric Andrieux s'est porté candidat il y a deux jours. Il sera l'invité du journal de 22h. Alors que la chef de file des députés PS au Parlement européen, Christine Revaud-Dallonne, vient de se déclarer candidate. Depuis la mise en place du plan laïcité au printemps, les cas d'atteinte à la laïcité à l'école sont recensés et remontent jusqu'au ministère de l'Éducation. Au séminaire national des coordonnateurs des équipes laïcité et faits religieux, le ministre Jean-Michel Blanquer a fait un premier bilan du dispositif. D'avril à juin, un millier de faits ont été signalés dans les établissements scolaires et sur ce millier de cas, 400 ont été traités, une soixantaine d'entre eux nécessitant une intervention des équipes académiques laïcité dans les établissements. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
Comment les établissements font-ils face à ce phénomène?
Alors, refus de serrer la main aux femmes, de participer à certaines activités, certificats médicaux de complaisance pour ne pas aller à la piscine pour certaines jeunes filles, encore tenue scolaire, vestimentaire, non appropriée, autant d'incidents auxquels sont confrontés les enseignants et les chefs d'établissement. Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le principal syndicat des proviseurs.
Le plus insidieux, je dirais, c'est pas tellement celui qui est visible, mais plutôt celui qui est invisible. C'est-à-dire lorsqu'on est avec une contestation sourde d'un certain nombre d'éléments d'enseignement, de vérités historiques, d'éléments scientifiques prouvés, qui sont plus ou moins contestés de manière plus ou moins ouverte par les élèves et qui peuvent mettre les enseignants en difficulté. Parce que là, on est dans la rationalité contre la croyance et il est extrêmement difficile parfois d'arriver à ses fins.
Une soixantaine de ces cas ont nécessité une intervention directe des référents laïcité, un dialogue pour désamorcer les conflits, lutter contre le communautarisme qui passe aussi par un dialogue avec les familles, estime l'un des référents de l'Académie de Toulouse.
L'éducation nationale ne travaille jamais seule, elle travaille toujours en partenariat avec d'autres institutions. Elle essaie aussi, par exemple à Toulouse, on essaie de faire des moments d'information pour les parents, à destination des parents, donc par le biais des associations de parents d'élèves ou d'autres associations de quartier. Donc il y a une volonté effectivement d'aller au-delà de l'espace scolaire parce que ces problèmes-là ne dépendent pas que de la communauté éducative.
L'islam n'est pas la seule religion impliquée et concernée. Plusieurs religions peuvent être impliquées, a rappelé Jean-Michel Blanquer, histoire de ne pas stigmatiser les musulmans de France, mais aussi de ne pas éveiller de nouvelles polémiques.
Hakim Kasmi, le parquet de Nanterre ouvre une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant un homme tombé d'un immeuble et empalé sur un poteau sur le trottoir. L'homme avait également été filmé agonisant à l'hôpital. L'enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, porte sur la diffusion de messages violents et atteintes à la vie privée. Et puis on a appris le décès de Raymond Lévy, ancien PDG de Renault de 1986 à 1992. Il avait 91 ans. Raymond Lévy avait pris les rênes de Renault dans des conditions tragiques après l'assassinat de Georges Besse, tué par des militants du groupe révolutionnaire Action Directe. Resté 6 ans à la tête du constructeur, alors contrôlé par l'État français, Raymond Lévy l'avait recentré sur l'automobile en cédant des filiales et il avait rétabli les comptes, poursuivant un redressement engagé par son prédécesseur. Le temps sera presque estival demain vendredi. Le soleil s'imposera du sud-ouest au nord et au nord-est. Le ciel restera chargé dans l'est et sur la Bretagne. Il pleuvra sur le Finistère. Les températures sont exceptionnellement douces avec des minimales comprises entre 10 et 18 degrés. Il fera entre 20 et 28 l'après-midi du nord au sud. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili.